18-19, le magazine.
Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM. Et cette semaine, elle sera aussi un peu jazz.
Voilà, oui, ce sera une émission un petit peu bousculée, un petit peu dans le désordre, mais c'est très bien comme ça. Donc au sommaire de cette émission, une première chronique sur un roman qu'on a beaucoup aimé. Puis on fera, en deuxième partie d'émission, place au jazz avec un invité, Gilbert Dalto, que les auditeurs connaissent bien. Et puis enfin, un nouvel invité, un petit peu plus loin, il nous viendra de Bretagne et on l'aura au bout du fil, Frédéric Prieux, qui viendra nous conseiller un album noir, bien entendu.
Un album une de BD, bande dessinée.
Voilà, une bande dessinée. Et puis, je crois qu'on voulait faire un petit coucou à quelqu'un
voilà,
qui...
Voilà, ben on voulait, disons, dédier cette émission à la mémoire de Harry Cruz, qui est un auteur de romans noirs, qui nous a quittés il y a une quinzaine de jours. Et voilà, donc lisez des mules et des hommes, par exemple.
Ou La foire au serpent.
La foire au serpent.
Voilà. Je crois qu'ils sont réédités chez Folio Policier.
En Folio Policier, voilà.
Voilà,
bye
salut
bye
Harry.
Harry.
Voilà. Donc, je vous ai dit que j'allais vous conseiller un bouquin. Je vais donc vous conseiller de lire Nuit d'encre. C'est un roman d'un Français qui s'appelle Philippe Huette. Et il est paru il y a très peu de temps chez Albin Michel. Le thème de ce roman, c'est pas nouveau. Les lourds secrets qui hantent encore, des années plus tard, les familles françaises au temps noir, très noir, de la Deuxième Guerre mondiale. En gros, trahison, spoliation, dénonciation et bien entendu le mot collaboration. Dans cet univers où tout est dit blanc ou noir, hein, on a noir collaboration, blanc résistance, mais bien sûr, on sait très bien que c'est pas si simple et que le gris, c'était quand même la couleur dominante. L'astuce intéressante de l'auteur, c'est d'avoir placé cette intrigue dans le milieu de la presse, dont on sait bien l'enjeu politique que peut représenter la ligne éditoriale d'un quotidien ou d'un hebdomadaire. Surtout en ces périodes d'élection, on le voit bien. Ce roman se passe il y a donc quelques années, on a l'impression que c'est dans les années 80, voilà, ça fait à peu près 25 ans que la Deuxième Guerre mondiale est finie, et on est donc, comme je l'ai dit, dans le monde de la PQR, presse quotidienne régionale, pour ceux qui ne le sauraient pas. On est vers Rouen, dans une ville de province, où, bien entendu, il s'en passe de belle derrière les lourdes tentures bourgeoises. Et le personnage, un des personnages principaux, c'est Paul-Henri Sternis. C'est le grand patron du quotidien principal de la région. Il est malade, il est très malade. Donc, la guerre de succession est ouverte. Mais, comme je le disais, c'est pas les enjeux économiques ou politiques qui vont prévaloir dans cette lutte pour l'acquisition du journal. Là, c'est la vengeance. Le patron, mais aussi les autres actionnaires du journal, faisaient partie d'un réseau de résistants et ont repris la direction du journal après l'arrestation à la fin de la guerre du propriétaire d'alors. Mais bien des événements qui se sont passés alors sont obscurs et, pour tout dire, semblent très mauvais. Le pouvoir, la cupidité humaine est plus forte. Et on le sait que les plus belles idées altruistes qui n'ont jamais bien résisté longtemps, elles. Vous l'avez compris, le sujet, encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas nouveau, il a été évoqué maintes fois. Mais ici, le biais dont il est, avec lequel il a été traité est vraiment très intéressant. Et puis, il y a le style. Le style de Philippe Huette. Une écriture racée, puissante, sans être emphatique. Des mots qui sonnent, qui tombent juste, des phrases qui modulent le rythme du récit, sans qu'il soit besoin d'action d'ailleurs tonitruante ou de scène d'éclat. Parce que, ne l'oublions pas, derrière les lourdes tentures de fenêtres de ces maisons provinciales, on ne fait pas de bruit, monsieur. On tue, on trahit, on magouille, mais sans faire de vagues. Voilà, je rappelle, ça s'appelle Nuit d'encre, Philippe Huette. C'est paru il y a peu chez Albin Michel. Et ça va nous permettre d'écouter un beau morceau de blues.
Un beau morceau de blues d'un nouveau venu, un bluesman écossais qui s'appelle Dave Akari. Il joue avec des musiciens finlandais.
C'est pas un jeu, Akari, non.
Non, Akari. Il joue avec des musiciens finlandais et il reprend, pour le morceau que j'ai choisi ce soir, le thème célèbre de Robert Johnson qui s'appelle Walking Blues. Et il joue avec une superbe National Style Resonator. Écoutez donc. Thank you.
woke up this morning feeling round for mash. I know by that I got those rockin' blues. Come on. I feel like blowing my lonesome horn. I was up this morning, my burn is gone. I feel like blowing my little lonesome. I was up this morning, oh, everything I had was gone. Lines in the street, baby, but I don't mind dying. I'm leaving in the morning if I have to ride the blinds. I've been mistreated, baby, but I don't mind. Somebody tell me, what he blues ain't bad. I wouldn't tell ya, worst thing I most ever had. Oh, somebody tell me, all the worry, blues ain't bad. Come on. I wanna tell ya, worst thing I most ever had.
Dave Akari, Walking Blues, un titre de Robert Johnson.
Voilà, et on va passer du blues au jazz, je pense que c'est pas trop mal. Gilbert Dalto, bonsoir et merci beaucoup de nous rejoindre.
Bonsoir.
C'est très gentil. Avec vous, on va parler, allez on se tutoie, hein.
on va pas faire semblant.
Moi
je tutoie mes invités.
Voilà, on va pas faire semblant. Donc on va parler de deux mauvais genres, un mauvais genre musical, un mauvais genre littéraire, le jazz et le polar. Alors pourquoi il te semble que ces deux choses-là, ça va bien ensemble?
Tout d'abord parce qu'ils sont pratiquement nés à la même époque, hein, puisqu'on a, ce qu'on appelle le vrai roman noir est né dans les années 20 avec Dashiell Hammett. Et les années 20 sont l'époque de la prohibition et le grand essor du jazz qui venait directement du blues qu'on vient d'écouter avec Robert Johnson. Et ça a été l'éclosion du jazz tout d'abord à la Nouvelle-Orléans, bien sûr. Et on peut parler de mauvais genre puisque tout le monde sait que le jazz est né d'abord dans les maisons de passe.
Dans les bordels, on le dit.
Où les pianistes comme Jelly Roll Morton, qui avait sur sa carte de visite inventeur du jazz.
Ah ça, belle, jolie chose.
Qui d'ailleurs était d'origine créole, donc à moitié français, qui s'appelait en fait Ferdinand Lamante. Donc le jazz est né dans un environnement douteux, un peu dangereux. Alors c'est normal qu'il aille... bien avec le polar qui explore, comme disait Raymond Chandler, ces mean streets, ces rues de mauvaise fréquentation, de mauvaise augure, dont il a été un peu la bande sonore finalement.
Alors ça a été la bande sonore dans le cinéma,
on peut
le dire, hein, on écoutera un morceau tout à l'heure quand on aura envie. Et puis il y a la bande son aussi de beaucoup de romans. Il y a beaucoup de romans où on met en scène des jazzman. D'ailleurs on parlait de J. Roll Morton. Merci. Heureusement que tu es là pour m'aider. Il est un des personnages principaux d'une série qui se passe dans les éditions Rivage Thriller, là, de David Fulmer, qui est vraiment sur les débuts du jazz super. Et on le retrouve aussi avec des personnages principaux qui adorent le jazz. Donc je crois que tu aimes bien John Harvey. Il me semble que j'aime bien John Harvey.
C'est pas le seul. Des écrivains qui sont intéressés au jazz, que j'aime, il y en a d'autres aussi. J'aime beaucoup Walter Mosley. Walter Mosley, qui lui carrément a basé le nom de son personnage principal, le détective Easy Rollins,
tout à fait,
sur le nom du saxophoniste Sonny Rollins, qu'il adore, et donc il a pris le même nom en l'orthographiant, pardon, de manière différente, mais il a reconnu que le nom de son personnage lui est venu en écoutant la musique de Sonny Rollins. Et le Easy Rollins, donc le détective privé noir, ce qui est rare dans les acteurs ouais. américains, surtout que ça se passe dans les années 50, ces bouquins, écoute constamment du jazz. Écoute Rollins, écoute Miles, écoute ouais. Coltrane, écoute Hank Mobley, écoute beaucoup de gens.
Et alors moi je suis située un petit peu plus là, Walter Mosley, parce que c'est vrai que c'est un écrivain majeur et qui est trop peu connu actuellement, je trouve. Walter Mosley, il décrit les quartiers malfamés de Los Angeles. Alors ça tombe bien qu'on parle de Walter Mosley, parce qu'en deuxième partie, à 18h40, je lirai un extrait d'une autre personne qui explore les bas-fonds de la Californie, avec une ville, Oakland, d'où est originaire Jack London, et avec une lecture qui m'a fait vraiment donner envie de parler de jazz, parce qu'il y a des morceaux sur le jazz absolument superbes. Alors, quelle est la bande-son idéale pour toi, si on pouvait dire un petit peu des choses plus bluesy, ou en lisant un roman noir?
Non, ça serait pour moi, personnellement, plutôt du jazz moderne.
Du jazz moderne, alors.
C'est-à-dire du bebop dans les années 45-50, que la musique est née avec Charlie Parker. Dizzy Gillespie, Miles Davis. C'est souvent cette musique-là qu'on retrouve dans les films noirs.
Dans les films noirs, tout à fait.
Comme Laura de Preminger, qui est musique de Charlie Parker. Et beaucoup d'autres films sont inspirés de cette musique-là. Il y a eu Duke Ellington aussi, mais le côté moderne de Duke Ellington, avec l'anatomie d'un meurtre de Preminger, par exemple. Et toujours Preminger, d'ailleurs, qui aimait beaucoup le jazz, qui a même fait Carmen Jones. Ça, c'est pas un polar, mais c'était la seule fois...
C'est quand même un côté très noir.
Oui, un côté... Dans tous les sens du terme.
Dans tous les sens du terme, oui.
Puisque, oui, il n'y a que des acteurs noirs, c'était la première fois.
C'est la première fois, hein, c'est ça.
Ouais. Et les héritiers de Bizet n'étaient pas contents, mais ils ont failli faire interdire le film, mais ils ne sont pas arrivés. Comme quoi, c'était encore de mauvaises fréquentations.
Ah, mais ça reste, en tout cas dans les romans noirs actuels, ça reste encore très prégnant. Et justement, on en reparlera, parce que là, le personnage, c'est à l'inverse. C'est un blanc qui veut se faire accepter des noirs par rapport à cette musique-là, parce qu'il y a des groupes de jazz dans le quartier où il vit. Et comme il est blanc, il est pas très bien accepté. Il y a un peu du racisme de la part des petits blacks là-bas. Mais comme il joue très bien de la trompette, et ben il se fait accepter.
Et l'auteur, donc, tu l'as pas précisé, c'est Eric Miles Williamson.
On en reparlera en deuxième partie. Alors, en revenant à John Harvey, d'ailleurs, il a des noms. On parlait de Charlie Parker et de Dizzy. Il a quatre chats dont les noms sont Dizzy, Bud, c'est tout, Pepper. Tout le jazz, Pepper et Art, me semble-t-il. Donc. Non, il doit y en avoir un quatrième dont j'ai oublié le nom. C'est le petit chat qui est sous le divan, c'est pour ça que je m'en souviens plus. Voilà, donc, dans le cinéma, on a parlé d'Otto Preminger. On ne peut pas ne pas parler du film mythique Ascenseur pour l'échafaud, parce que c'est quand même là, je crois que même des gens qui ne sont ni amateurs de roman noir, ni amateurs vraiment de jazz, c'est une musique qui colle à l'ensemble des images et à cette déambulation des deux personnages principaux, quoi qu'il y en ait un qui est coincé dans l'ascenseur, mais à la déambulation de Jeanne Moreau, et c'est une des premières fois où la musique est aussi prégnante dans un film, non? Je me trompe?
Oui, mais surtout quand on connaît les conditions d'enregistrement, puisque Louis Malle, puisque c'est lui qui a réalisé le film, voulait absolument du jazz, voulait un musicien américain, et il a donc demandé à Miles Davis, qu'il connaissait par l'entremise de Juliette Gréco, puisque Miles Davis était le compagnon de Juliette Gréco à l'époque, ou l'amant, enfin peu importe. Et donc ils se sont rencontrés, et Miles a tout simplement improvisé à la trompette en regardant les images du film. Les rushs, il a improvisé sur les rushs du film. Et on peut quand même préciser, puisqu'on est sur la Côte d'Azur, que c'est au saxophone un niçois, Barney Whelan, qui accompagne Miles Davis, et à l'époque, Barney avait 19 ans. Et d'ailleurs, les autres musiciens qui accompagnent Miles dans cette musique très très atmosphérique, il faut beaucoup d'écoute, beaucoup d'oreilles, beaucoup de sensibilité pour se coller à ce son de trompette très nuageux, très flou. Donc c'était uniquement des musiciens français, c'était Pierre Michelot à la contrebasse, René Hurtréger au piano, et il y avait l'américain de Paris, Kenny Clarke à la batterie.
Mais enfin bon, il a beaucoup hanté les bars parisiens, lui, donc.
Oui.
On peut presque dire qu'il y avait que des Français.
On va l'adopter.
Voilà. Et donc, c'était prévu qu'il se soit improvisé ou c'est Miles Davis qui a proposé ça à Louis Mal,
C'est Miles Davis qui a proposé ça à Louis Mal. Enfin, c'est venu spontanément. Il a regardé les rushs pendant que Louis Mal et Pro lui montrait quelques images du film pour qu'il ait une idée de l'atmosphère. Il a spontanément sorti la trompette et il a commencé. C'était tellement bon qu'ils l'ont laissé faire, puis il a continué. Il a fait rentrer les autres musiciens et ils ont passé une nuit à enregistrer comme ça la musique du film.
Eh bien, justement, on va finir. Donc moi, je vous conseille, vous fermez les yeux. Vous imaginez Jeanne Moreau dans son petit tailleur, elle fume une cigarette accoudée au bar, et puis après elle va marcher dans Paris en attendant son amoureux. Et voilà Miles Davis. Merci Gilbert, on se retrouve tout à l'heure.
Merci,
à tout à l'heure.